Ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est une réflexion qui est tirée de ma thèse de sociologie que j'ai soutenue en 2003 et qui s'intitule toujours « Existe-t-il un multiculturalisme à la française ?» Une étude sur les politiques de la ville, avec une période qui allait à l'époque de 1981, date à laquelle on peut situer à peu près le démarrage de ces politiques qui à l'époque s'appelaient de développement social des quartiers, à 2003, moment auquel je soutenais le travail, mais sachant que l'enquête, elle est quand même davantage datée sur une période qui va de 1997 à 1999-2000, et effectivement, il y aurait peut-être aujourd'hui une réactualisation des données à faire. Bon, pour exposer, je vais le faire de la manière suivante. Bon, d'abord, je vais faire un point un peu général pour essayer de déboucher un peu un cadre problématique. Et ensuite, je présenterai dans un deuxième temps l'enquête empirique et les principaux résultats. Alors, pour ce qui est de la problématique, si on peut dire, pour aller vite... Je pense qu'on peut dire qu'elle part d'un constat général, d'une question très générale, qui consiste en gros à dire, d'une observation si on peut dire, qui consiste à dire, pendant les 20 ou 30 dernières années, depuis les années 60-70 en gros, beaucoup de pays démocratiques dans le monde, et notamment dans le monde occidental, ont fait évoluer la façon dont ils considèrent leur minorité, basculant de politiques assimilatrices vers des approches plus respectueuses de la diversité culturelle, voire vers des politiques volontaristes de promotion et de reconnaissance de la diversité culturelle, selon le terme qui est proposé par exemple par Charles Taylor. Alors bon, les exemples sont multiples. Il y a notamment, bon, bien sûr, les expériences précurseurs du multiculturalisme canadien-australien, mais il y a aussi les politiques indianistes en Amérique latine, le multiculturalisme aux États-Unis, même si là, il n'y a pas de politique multiculturelle officielle, il y a quand même le multiculturalisme américain est souvent cité, débattu et discuté en France. En Europe de l'Est aussi, à la fin des régimes communistes au début des années 90, les nouveaux régimes démocratiques qui émergeaient ont reconsidéré de manière assez substantielle la manière dont ils traitaient justement les différentes minorités religieuses, culturelles, et ont souvent donné des droits assez substantiels à ces minorités-là. Alors, dans les comparaisons internationales, la France continue à être étudiée comme une des exceptions les plus notables de cette tendance. Et comme un exemple, peut-être l'exemple le plus abouti d'une position politique assimilationniste qui est fondée sur la conception républicaine de la citoyenneté, le modèle français d'intégration qui mobilise des valeurs comme la laïcité, l'universalisme, l'égalité, etc. Pourtant, bon, déjà la notion de modèle français a été beaucoup discutée, et suscite des doutes et des hésitations parmi les acteurs de terrain, elle a été beaucoup débattue par les sciences sociales. Mais aujourd'hui, on observe en France que ces principes politiques commencent à être mis à l'épreuve et contredits en quelque sorte au sein même des interventions des pouvoirs publics. Donc les débats vont au-delà de la société civile et des sciences sociales, si je puis dire, et c'est dans les interventions même de l'État et des pouvoirs publics qu'on voit qu'aujourd'hui ces principes sont contredits, mis à l'épreuve en quelque sorte. Alors le travail social s'ethnicise entre guillemets de plus en plus. L'idée de discrimination positive se banalise dans le débat public, les discours politiques, le débat public. Les acteurs communautaires, entre guillemets, sont de plus en plus cooptés par les institutions qui voient des partenaires pour leur action sociale dans les politiques de proximité. Alors, il n'est pas très clair, il est difficile d'interpréter ces phénomènes-là. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un nouvel exemple d'hypocrisie républicaine, comme ça a été souvent dit, ou est-ce que, au contraire, il faut voir dans ces pratiques les signes d'une remise en cause, en fait, de ce qui serait le modèle français, donc d'une évolution latente, finalement. Donc, ce sont également ces pratiques que j'ai voulu étudier dans cette enquête, avec l'idée de voir en quoi la France, qui est un pays qui n'a pas adopté de politique multiculturelle officielle, a fait nonobstant évoluer vers une plus grande prise en compte par l'État et par les pouvoirs publics de l'ethnique, de la dimension ethnique. Alors, j'ouvre là rapidement une parenthèse pour préciser le sens dans lequel j'emploie ce terme d'ethnique. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'un sens objectif, à savoir l'ethnique étant la tribu d'une ethnie, mais je l'emploie dans la perspective, si je puis dire, de Weber, à savoir l'ethnie comme la croyance subjective en une ascendance commune, qu'elle soit fondée sur la race, le phénotype, la religion ou une origine nationale. Bon, perspective subjective, si on peut dire, de l'ethnicité, qui a été ensuite développée dans d'autres travaux autour de la notion justement d'ethnicité par des anthropologues comme Frédéric Barthes, etc. Alors, pour parler de ces questions de prise en compte donc de la diversité culturelle par les institutions, c'est la notion de multiculturalisme qui est souvent utilisée. Et c'est un terme, en fait, qui a été emprunté à l'expérience canadienne et australienne et qui a été introduit, bon, dont l'usage s'est assez largement généralisé pour justement qualifier ces enjeux de prise en compte équitable, entre guillemets, des différentes cultures dans l'espace public. Et alors, on peut noter que cette notion apparaît en France au milieu des années 90, avec les travaux notamment de Jean-Louis Amsel, d'une part, et puis de Michel Viorca, d'autre part. Alors, pour Jean-Louis Amsel, le multiculturalisme, en fait, n'est pas du tout étranger à la France. Et l'auteur note qu'il y a en France une pensée, toute une tradition différentialiste et raciologique qui a toujours accompagné l'universalisme et l'assimilationnisme républicain et qui a été notamment, qui s'est donné notamment à voir dans l'administration coloniale. À la fin de l'Empire et à la faveur des migrations postcoloniales, ces coutumes entre guillemets françaises ont été rapatriées en métropole et d'après l'auteur ont donné l'essence à partir des années 80 à un multiculturalisme français, ce qu'il appelle un multiculturalisme français, qui est incarné par une gestion communautaire des populations, issues notamment des anciennes colonies, et qui aurait bénéficié de dérogations importantes dans la gestion des lieux de culte, les gestions des affaires du voile, ce qu'on appelle les affaires du voile, la relation avec les associations communautaires, dites communautaires, donc des dérogations importantes rappelant les régimes juridiques spécifiques auxquels avaient été sujettes les populations coloniales. Donc ça, c'est une première façon dont la notion de multiculturalisme a été mobilisée en France. Chez d'autres auteurs toutefois, elle est utilisée davantage dans une perspective non pas empirique de description de la situation française, mais plutôt normative. Normative dans le sens de un appel au renouvellement de la posture républicaine qui est jugée de moins en moins tenable, acceptable, etc. Dans cette perspective normative, on peut envisager rapidement, bon, je vais très vite, deux manières de poser les débats. Alors, une première manière est celle qu'on peut qualifier avec, à la suite de Will Kimlicka, par exemple. Donc, c'est la manière des libéraux culturalistes. Pour ces auteurs libéraux culturalistes, la reconnaissance institutionnelle des cultures, entre guillemets, ou des identités particulières, doit découler du respect des principes démocratiques, de liberté de chacun et de respect des préférences individuelles. Hein, d'où un peu l'étiquette libéro-culturaliste, parce qu'ils argumentent la reconnaissance culturelle au nom des libertés et culturaliste parce que bon, ils croient que les cultures, les identités, ça a une existence propre et que, par conséquent, ils sont susceptibles d'être reconnus, institutionnalisés, etc. Bon, c'est une perspective anglophone et anglo-saxonne, mais en France aussi, on a des auteurs qui se situent dans cette vision-là, et on peut citer par exemple les travaux de Alain Renaud et Sylvie Mesure, qui proposent, mais qui ont été aussi rejoints par quelqu'un comme Touraine, par exemple, et qui proposent l'idée de promotion de droits culturels. Droits culturels qui seraient, non pas des droits collectifs, mais une nouvelle catégorie des droits de l'homme, donc des droits individuels rattachés à la personne humaine, et qui recouvrirait les droits de l'individu à posséder, à développer, éventuellement en commun avec d'autres, sa propre vie culturelle. Ça, c'est leur définition des droits culturels. Bon, une deuxième façon d'envisager les débats, si on peut dire, est une manière plus critique, suivant laquelle la reconnaissance, la prise en compte institutionnelle de la diversité culturelle est avant tout une question de justice sociale. Et cette prise en compte des identités particulières est sujette notamment à l'idée de la participation équitable de tous à la société, selon la notion de participation paritaire proposée par exemple par quelqu'un comme Nancy Fraser. Alors participation paritaire, c'est-à-dire pour que chacun puisse participer pleinement à la société, il convient qu'il soit reconnu par les institutions de cette société, donc effectivement il faut que la diversité des normes culturelles soit reflétée par les institutions qui organisent et régissent la société. Alors, dans cette perspective qu'on pourrait qualifier de démocratique et de participative, il y a également différentes formulations. Alors, il y a une première manière de poser le débat qui est, par exemple, suggérée par Nancy Fraser, qui oppose au multiculturalisme positif, celui qui cherche à reconnaître des droits pour les minorités, ce qu'elle appelle un multiculturalisme critique, dont le but serait non pas de reconnaître les identités, mais d'essayer de désinstitutionnaliser, selon sa propre expression, ce qui serait une norme culturelle dominante. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de valoriser les identités, de reconnaître des identités, mais l'idée est d'essayer en quelque sorte d'extirper des institutions ce qui véhicule comme un culturel implicite et qui, du coup, est injuste, inégalitaire, etc. Une autre formulation est celle, par exemple, proposée par Michael Walzer, selon lequel le pluralisme dans les sociétés démocratiques serait garantie de la manière la plus démocratique justement possible à travers un soutien au mouvement de la société civile, aux associations en fait, parce que ce sont les associations qui dans la société démocratique sont justement les garants premiers de la diversité, du pluralisme, etc. Et c'est, je crois, c'est cette dernière perspective qu'on peut relier aux travaux de Walzer qui éclaire le mieux la situation française, où on a justement vu se développer pendant dans les 20 dernières années, dans le sillage de la décentralisation, de la territorialisation de l'action publique, on a vu se développer toute une panoplie de politiques sociales de proximité qui en appellent à la participation des habitants, à la mobilisation, à la responsabilisation, à l'autoprise en charge, et qui justement, dans leur panel d'intervention, accordent une part très très importante au soutien des mouvements et des associations de la société civile. Avec donc à cette étape de la réflexion, si je peux dire, la formulation, donc j'ai formulé une hypothèse supplémentaire, une hypothèse subsidiaire, donc qui correspond à cette intuition un peu de l'intuition de sur le fait que c'est la perspective participative qui collerait le mieux à la situation française. Donc cette hypothèse subsidiaire qui consiste à dire, en gros, si la France est aujourd'hui amenée à évoluer dans les manières dont elle prend en compte la diversité qui caractérise la société civile, cela ne se fait pas tellement à la faveur de la reformulation du projet politique national, mais à la faveur beaucoup plus d'évolutions dans les logiques même de l'intervention publique. Vous voyez, en fait, c'est les politiques publiques qui évoluent, c'est les logiques d'intervention de l'État qui évoluent. Et c'est dans ces transformations de l'ingénierie institutionnelle et administrative, c'est dans ces transformations des logiques de l'intervention publique, de plus en plus prises entre le local et l'Europe, c'est-à-dire le transnational, c'est dans ces transformations-là que évoluent également les modes de gestion de la diversité culturelle. Alors, hypothèse, est-ce qu'elle évolue ou pas ? C'est en tout cas l'hypothèse que j'avais voulu tester. Et effectivement, il y a un nombre important de travaux qui sont consacrés à ces questions de la territorialisation de l'action publique et aussi à la manière dont cette territorialisation a fait évoluer les logiques de l'action de l'État. Alors bon, je vais aller vite, par exemple, Pierre Rosanvallon qui dit que l'État-providence serait passé de ce qui serait un État passif-providence à un État actif-providence, le premier aurait été une machine à indemniser, maintenant on serait beaucoup plus dans une intervention active où il ne s'agit pas d'indemniser des chômeurs, mais beaucoup plus de mobiliser des travailleurs, enfin soutenir des gens, enfin un peu l'idéologie du workfare transposée à la situation française. Alors on peut avoir d'autres exemples, comme par exemple l'analyse que Robert Castel propose des politiques sociales, où il fait la distinction entre une première période où les politiques sociales seraient des politiques sociales d'intégration, d'après son expression, c'est-à-dire des politiques animées par une philosophie d'homogénéisation de la société à partir du centre, d'accès de tous aux droits, de services publics, de réduction des inégalités, et une deuxième période, donc corollaire de la décentralisation, qui se développe à partir des années 80, qui serait où la politique sociale obéirait beaucoup plus à une logique de discrimination positive, c'est-à-dire d'action ciblée sur des territoires par rapport à des catégories de population particulières, etc., etc. Alors, on a le même type d'analyse en ce qui concerne aussi les politiques culturelles, où on fait la distinction, en gros, entre deux âges. Le premier étant celui de la démocratisation culturelle, le deuxième étant celui qu'on nomme en général la démocratie culturelle. Et donc l'idée de départ était de voir en quoi on pouvait transposer un peu ces analyses en matière d'immigration et de gestion de la diversité culturelle, et quel a été en gros ici l'impact de tous ces changements-là qui ont affecté l'intervention de l'État-providence par l'émergence justement de politiques territoriales. Alors, à partir de là, le choix des politiques de la ville, effectivement, était un choix justifié, puisque les politiques de la ville sont souvent considérées comme l'exemple le plus systématique de ces changements qui concernent les politiques publiques. Elles sont des politiques sélectives. Elles visent que certains quartiers qui sont les quartiers les plus en difficulté. Elles sont des politiques contractuelles, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur la base de projets. Il y a à chaque fois des contrats, des engagements qui sont passés. Elles sont des politiques partenariales, c'est-à-dire qu'elles sont menées par l'État, mais aussi par les villes. Elles sont largement ouvertes aux associations de la société civile, du monde économique, etc., etc. Et par ailleurs, ces politiques ont été d'ores et déjà étudiées parce que, justement, elles utilisent la discrimination positive parce qu'elles sont inspirées des méthodes du développement communautaire, par exemple, telles qu'il a été pratiqué aux États-Unis. Ces politiques de la ville ont d'ores et déjà beaucoup été étudiées en France, dans les travaux, par exemple, de Joël Roman, de Daniel Béard, de Michel Vivurca, comme un exemple de multiculturalisme à la française. Donc voilà, justification du terrain d'enquête qui est bien sûr un terrain limitatif, et de toute façon cette perspective qui est une perspective structurelle que je souhaite explorer ne se veut pas exclusive mais bien plutôt complémentaire à d'autres approches comme par exemple la perspective historique proposée par Jean-Louis Amsel. Alors bon, là, la lumière de l'enquête, je ne développerai pas. J'en suis arrivée en gros à la conclusion qu'il fallait distinguer les politiques sociales de proximité ou les politiques de la ville, en gros, non pas une source de tension, mais trois sources de tension, trois défis à ce qui seraient les principes de l'universalisme républicain. Donc en gros, il n'y a pas un décalage, il y en a trois en quelque sorte, trois sources de décalage et de tension. Alors le premier, effectivement, est la question constitutive, entre guillemets, de la discrimination positive, qui en général focalise le débat public. Aujourd'hui, dans le monde du travail, de l'éducation, au sein de la fonction publique, des places sont réservées pour les habitants issus des quartiers sensibles. Et la question se pose effectivement de savoir si on peut voir dans ces pratiques un équivalent de l'affirmative action américaine. Et pour beaucoup d'auteurs, en France, le territoire offre des moyens détournés pour prendre en charge la question de la diversité, qui en France se heurte à des obstacles juridiques, et constitue peut-être une voie raisonnable pour une action positive à la française qui permet justement de contourner ces obstacles juridiques. Donc ce que j'avais voulu étudier, c'était de voir est-ce que ce parallélisme était justifié, en d'autres termes, quelle était la valence ethnique des catégories territoriales. Est-ce qu'on pouvait dire que, oui, les quartiers, en fait, représentaient un euphémisme, une manière masquée de prendre en charge l'immigration. Donc ça, c'était le premier champ problématique. Un deuxième champ problématique, ou deuxième défi au principe de l'universalisme républicain, c'est un phénomène plus récent qui reflète l'inflexion qui a été donnée à la fin des années 90 aux politiques d'intégration, avec l'émergence notamment de la lutte contre les discriminations. Donc, émergence de la lutte contre les discriminations à la fin des années 70, requalification des politiques 90, merci. Requalification des politiques d'intégration, et beaucoup d'auteurs voient dans ce passage-là effectivement un tournant très important dans le traitement politique et social de l'immigration en France. Et ce qu'on note, c'est qu'à nouveau, cette question de la lutte contre les discriminations est fortement arrimée au territoire. Comment on va lutter contre les discriminations ? On va lutter par le biais de plans locaux de lutte contre les discriminations. Bien sûr, on va lutter par ailleurs, Mais un des moyens, ce sont justement ces plans locaux de lutte contre la discrimination. Et là aussi se pose toute une série de questions. Quelle est la pertinence locale pour lutter contre les discriminations? Quels outils a-t-on au plan local de lutter contre la discrimination? Et encore une fois, que peut-on faire sur ces questions de la lutte contre la discrimination tout en sachant un certain nombre de limites et d'obstacles qui sont posés par le droit? Et en fait, une dernière source de tension, un dernier défi, c'est un défi, si je puis dire, qui n'est pas logique, mais qui est historique et qui est justement lié à la participation des habitants et à l'ouverture de la société civile. Et c'est vrai que la République en France semble s'être construite par une action prépondérante de l'État, et qu'on observe que dans la période récente, on observe que les appels à la démocratie, à la citoyenneté participative, locale, qui accompagnent aujourd'hui la collaboration que les nouvelles politiques urbaines essayent d'instaurer avec la société civile. Donc, tous ces thèmes-là qui sont essentiellement rhétoriques, certes, mais bon, qui quand même accompagnent des changements et des mouvements réels au sein de la société. Donc, on observe que effectivement, l'action publique s'est de plus en plus ouverte à des organisations venues de la société civile, au nom de la participation des habitants, justement. Des associations issues de la société civile sont de plus en plus cooptées par les institutions, soutenues matériellement, symboliquement. Et au sein de ces associations de la société civile, il y a aussi les associations ou les organisations particularistes des migrants et de leurs descendants, qui sont théoriquement exclus justement du soutien public au nom de l'idée de neutralité et qui font souvent l'objet d'une dénonciation un peu rituelle du communautarisme, etc. Or, on voit qu'elles sont de fait soutenues et cooptées par les pouvoirs publics dans ces politiques locales de lutte contre l'exclusion. Et donc, la question qui se pose là aussi, c'est est-ce qu'on peut analyser ces échanges en termes de reconnaissance ? Avec la double signification que je me suis attachée à donner à cette notion, à savoir à la fois de construction de représentations positives attachées au pluralisme culturel, et puis l'engagement de moyens publics. C'est-à-dire que seulement les représentations, ça ne suffit pas, et seulement les moyens, ça ne suffit pas non plus. Voilà, bon, j'ai été, je crois, un peu longueur dans cette introduction. Je vais passer à la présentation des résultats de l'enquête. L'enquête a eu lieu dans deux villes de la région parisienne, entre 1997 et 2000. Elle a été essentiellement menée avec des responsables associatifs, des élus, des professionnels sociaux, des professionnels de la politique de la ville. Donc, en gros, une 60-70 entretiens ont été réalisés avec 40 associations différentes. Et ce que je n'ai pas dit, l'enquête empirique, elle porte essentiellement sur le troisième aspect. Donc c'est ça que je vais développer. Bon, si vous souhaitez, dans la discussion, on peut aussi échanger sur les deux autres questions. Mais en fait, comme l'enquête de terrain, elle a étudié systématiquement que le dernier point, c'est celui-là que j'ai choisi de présenter. Donc, avant de commencer, peut-être quelques données de cadrage. Il faut savoir la statistique, bon, pas problématique. Il faut savoir que la politique de la ville est aujourd'hui une politique qui est presque essentiellement faite par les associations. Et que, entre, par exemple, 1995 et 2000, quelques 15 000 associations ont été soutenues à ce titre-là. Et que chaque année, par exemple en 2000, les données de 2000, il y a 7200 associations qui sont soutenues par la politique de la ville pour une enveloppe moyenne qui est de 30 000 euros à peu près. Alors, les associations de quartier, c'est-à-dire les associations locales d'habitants, comptent pour presque la moitié de ces effectifs, 53% en 2000, mais en revanche, elles ne captent que 16% des financements. Donc, associations locales d'habitants très nombreuses, qui nous intéressent plus particulièrement parce que les associations des migrants et de leurs descendants en font partie de celles-là. Donc, effectivement, elles sont très nombreuses, plus de la moitié des effectifs, mais ce n'est pas elles qui captent le plus gros des financements. Et par exemple, la Garge, ville dans laquelle j'ai mené l'enquête, en 97, il y avait 59 projets associatifs soutenus qui étaient présentés par quelques 30 associations gargeoises. Bon, là-dessus, il devait y avoir 4 ou 5 qui étaient des associations de migrants ou de descendants de migrants. Bon, pour aller tout de suite sur un peu les résultats de l'enquête, bon, tout d'abord, Peut-être que là, il faut faire un peu la différence entre le contrat de ville, qui est le service qui gère justement les dispositifs de la politique de la ville, et les circuits traditionnels de la mairie, qui peut être doté d'un service culturel, d'un service de la citoyenneté, d'un service vie associative, par exemple, comme c'était le cas dans les villes où j'ai mené l'enquête. Donc, il y a en quelque sorte deux circuits. Un circuit traditionnel municipal, qui est plus politique. Il y a un circuit politique de la ville qui se targue d'être plus neutre, justement, parce qu'il serait, voilà, c'est une politique qui est soutenue par l'État, etc., etc. Bon, de fait, le contrat de ville a été très largement municipalisé et ces professionnels sociaux sont très largement sous la houlette. Mais bon, je crois qu'il y a quand même, c'est pas tout à fait la même chose, hein, même si, bon, c'est vrai que c'est plutôt un point d'honneur qui est mis à prendre ses distances que vraiment une indépendance réelle. Mais disons que ce n'est pas tout à fait la même chose, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas les mêmes enveloppes. Hein, souvent, les services associatifs de la mairie, bon, effectivement, ils gèrent les relations avec les associations, mais ils ont un budget qui est très très limité. À moins que la mairie ait voulu se lancer vraiment dans une politique très volontariste, comme par exemple la ville de Vitry était lancée dans une politique très volontariste de coopération internationale avec le Mali. Et donc là, par exemple, il y avait une association malienne locale qui était d'ailleurs très largement créée avec le soutien municipal, qui était un peu le fer de lance de cette politique-là. Bon, là, c'est sûr qu'il y avait un budget énorme. Mais c'était quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. Et en général, ces services municipaux associatifs, ils distribuent plus de l'aide logistique que des enveloppes financières importantes. Mais quand même, le constat est important à faire, je pense, à savoir que les associations ethniques des migrants et de leurs descendants sont tout à fait prises en charge et prises en compte par ces services municipaux, au même titre que les autres associations locales, et au nom des principes de l'égalité de traitement, effectivement, elles sont prises en compte à égalité, si on peut dire, avec les autres associations. Ils sont des interlocuteurs reconnus, bénéficiaires d'importantes prestations municipales. Alors bon, tout ça est relativisé parce que là, il n'y a pas des moyens très importants. Et alors, bon, effectivement, il faut introduire des nuances. Alors, il y a toujours ceux qui sont plus ou moins bien vus parce que justement, tout ça est politique. Alors, tout dépend de la couleur de la municipalité. Mais c'est comme pour les autres associations, j'ai envie de dire. Le fait qu'ils soient ethniques, des associations ethniques, bon, a priori, hein, dans les grandes lignes, ce n'est pas ça qui influe sur la chose. Et cette prise en compte est d'autant plus frappante, j'ai envie de dire, qu'elle se combine toujours avec des dénonciations rituelles dans le discours des élus sur le communautarisme, dont ces associations-là sont suspectées d'être le vecteur. Alors c'est toujours, oui, mais attention, faites attention, nous, il n'y a pas de repli communautariste, etc. Et on leur dit, mais alors, vous, l'association pakistanaise, donc vous, voilà, vous les accueillez. Mais oui, bien sûr, comment pourrait-on ne pas le faire? Ça serait faire de la discrimination à leur égard. Alors, dans le contrat de ville, donc la principale distinction, c'est un service qui est de plus en plus municipalisé, mais qui se targue quand même d'avoir des objectifs propres, à savoir la lutte contre l'exclusion, par la création de liens sociaux, etc., qui a quand même toute une méthodologie qui lui est propre, avec des appels à projets, des réponses, enfin, il y a toute une méthodologie du projet qui lui est propre, et surtout, il y a des moyens beaucoup plus importants. Hein, parce que vraiment les mairies, ce qu'elles donnent, c'est de l'aide logistique, un peu de moyens. Là, le contrat de ville, puisque la majorité des actions de la politique de la ville, ça a changé dans les dernières années, mais à l'époque c'était le cas, est porté par les associations. Donc c'est vraiment là où va le plus gros de l'effort financier consenti par les pouvoirs publics. Donc des moyens beaucoup plus importants. Et alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du contrat de ville? Est-ce que les associations des migrants et de leurs descendants ont des chances d'aboutir dans les critères du contrat de ville, pour reprendre l'expression d'une des personnes interrogées? Alors là, ça commence à être déjà un petit peu plus compliqué. Et en interrogeant les professionnels, on a d'abord affaire à des hésitations, si je peux dire, de principe. Hein, je vais citer quelques extraits d'entretien. Donc, c'est des chefs de projet qui parlent et qui commencent par dire, bon, ils parlent de travail identitaire. Parce que, bon, toutes ces associations de migrants et de descendants, bon, ils ont tout un projet autour, justement, de l'identité, la différence, ce que les professionnels appellent le travail identitaire. Et donc, une citation d'entretien. Il est logique que les populations étrangères en France essayent de préserver leur identité, de transmettre leurs traditions, comme le feraient les Français à l'étranger. C'est un travail identitaire qui est normal. Le travail sur l'identité des communautés, c'est bien, mais ce n'est pas l'objet du contrat de ville. On ne donnera pas des subventions pour des cours d'arabe, par exemple. Le contrat de ville est là pour lutter contre les exclusions, pour l'intégration, c'est tout un état d'esprit. Se retrouver entre soi pour boire un coup, ça pose problème. Vous voyez, donc d'emblée, on réaffirme l'objectif social. Mais, parce que j'avais une méthode de travail un peu particulière, je prenais des notes, je ne pouvais pas enregistrer, je prenais des notes, après je retranscrivais, je mettais par écrit et je soumettais la fois d'après, je soumettais ce que j'avais retranscrit aux personnes interrogées. Donc une fois retranscrite, cette phrase gêne, et c'est d'abord, on revient d'abord sur la notion d'intégration. Et alors les mêmes personnes disent, alors, c'est quand même gênant, tout ce que vous avez écrit là, le terme d'intégration est connoté. Il évoque l'assimilation, c'est-à-dire le fait d'oublier sa culture, d'adopter la culture du nouveau pays. Et nous, on n'est pas sûr qu'on leur demande ça. Je pense qu'au contraire, la notion de reconnaissance peut être intéressante pour nous. On ne financera pas des cours de Coran, mais des cours de langue maternelle. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Sa collègue. La formulation me gêne parce que ce n'est pas si clair que ça. Justement, il y a un débat sur ces questions. Ce n'est pas tranché, ni au niveau politique, ni au niveau de la politique de la ville. Le travail sur l'identité, ça peut faire l'objet du contrat de ville, si ça ouvre. Savoir qui on est, d'où on vient, pour mieux participer à la société française. Établir une espèce de passerelle. Et effectivement, bon, là je vais aller vite, je vais donner un peu un raccourci, un condensé des différents éléments que j'ai pu recueillir dans l'enquête. Effectivement, c'est cette métaphore des passerelles qui est le plus souvent utilisé dans les discours professionnels pour rendre compte, pour étayer leur approche de la reconnaissance. Donc à chaque fois, il s'agit d'établir des passerelles, c'est-à-dire savoir qui on est, d'où on vient, pour mieux participer. La séquence logique est toujours celle-là. Donc, se retrouver pour mieux participer. Pouvoir savoir qui on est pour s'insérer plus harmonieusement dans la société française. Et donc, en gros, c'est là aussi gros raccourci pour aller vite, l'idée en gros est celle de l'identité au nom de la participation. Vous voyez ? La différence pour participer mieux, l'identité au nom de la participation à son tour facteur d'intégration. Donc au final, et là je vais vraiment par des gros raccourcis, c'est l'idée... Enfin, c'est une formulation que je propose, c'est l'idée de l'ethnique au service de l'intégration. Vous voyez, c'est l'idée de l'ethnique au service de l'intégration qui est une injonction paradoxale, à mon sens, qui est l'injonction institutionnelle et qui est la condition à ce que, justement, ces associations de migrants et de descendants puissent trouver une place dans le canevas d'action légitime du développement social des quartiers et de la politique de la ville. Vous voyez, bon. L'identité, le pluralisme, oui, d'accord, mais à condition que ça s'insère quand même dans un cadre qui nous intéresse, qui est celui de la création du lien social, de la lutte contre l'exclusion, etc. Donc il y a comme ça toute une série de transformations sémantiques, au fil desquelles on se retrouve avec cette idée-là. Oui, l'identité, finalement, ça nous intéresse bien parce que l'identité permet aux gens de se valoriser et donc de bien participer. Et par la participation, donc celui qui participe, c'est créer du lien social, c'est finalement c'est s'intégrer à la société. Voilà, il y a comme ça toute une séquence logique. Et alors, bon, tout de suite dire que bon, l'ethnique au service de l'intégration, ça peut paraître comme allant de soi ou quelque chose qui relève vraiment de la rhétorique politique et institutionnelle. Bon, on peut tout de suite dire là que déjà cette idée-là de l'ethnique au service de l'intégration, ça dénote quand même une recherche, ça dénote la recherche d'une nouvelle forme de mise en relation entre justement identité particulière et vivre ensemble. Je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire que traditionnellement, cette question des identités et du vivre ensemble, selon les principes républicains, est gérée par la coupure et par la dissociation. On privait les cultures, on publie les pratiques communes, organisées par la citoyenneté, etc. Donc là, dans cette espèce de mise en relation qui est tentée par les institutions, on voit l'émergence de quelque chose de... Bon, c'est pas complètement nouveau, mais c'est quelque chose de différent. C'est justement c'est une stratégie de mise en relation, de mise en équation qui était évacuée. Mais justement, dans cette mise en relation, cette mise en équation, tout de suite, on peut faire des remarques critiques, à savoir, on voit très bien que la mise en relation ne signifie pas l'équivalence. Hein. Et on voit bien que les objectifs d'intégration, de cohésion sociale demeurent un peu l'objectif le plus légitime et ultime, alors que, justement, les références, les appartenances particulières se voient réserver le rôle de moyen pour y parvenir. Vous voyez, donc ce n'est pas un droit qu'on octroie, c'est effectivement, oui, au cas où ça rentre dans ce cadre-là, ça pourrait nous intéresser. Vous voyez, c'est conditionnel, hein. Ça se négocie, c'est conditionnel. Et donc, en fait, c'est l'expression que j'ai utilisée, c'est celle de identité-instrument. Vous voyez, c'est l'identité est un instrument. Alors, cette idée de l'ethnique au service de l'intégration ne va pas de soi, bien sûr. Elle va partager, les associations vont se partager justement dans l'interprétation de ce message et de cette attitude qui leur est donnée signifiée par les institutions. Et à partir de là, j'ai construit une typologie que je vais vous présenter rapidement dans le temps qui me reste. Une typologie donc avec trois logiques de mobilisation associative, justement en référence à cette jonction proposée par les institutions. Trois logiques de mobilisation associative, trois figures de l'altérité aussi, auxquelles correspondent trois types de soutien institutionnel. Enfin, tout ça est un petit peu trop typologique, mais bien sûr, on pourra y revenir dans la discussion. Alors donc, première logique, c'est justement, c'est face à cette synthèse qui est tentée, qui est proposée par les institutions, il y a des associations qui restent sur la posture classique, qui est de dire, ah ben non, nous c'est notre culture, nos traditions, bon, ça nous regarde, c'est l'affaire privée de notre communauté, on s'en occupe, pas de problème, ne vous inquiétez pas de ça. Donc des associations qui vont gérer ça, gérer en quelque sorte les affaires internes de leur collectivité et qui vont pas du tout poursuivre des objectifs d'action publique, d'expression publique, qui ne vont pas du tout solliciter le soutien des pouvoirs publics pour se développer et pour mettre en place des actions. Donc qui restent sur la posture traditionnelle. Alors, une autre type d'attitude ou une autre logique, c'est justement les associations qui vont tenter de jouer de cette synthèse qui est proposée par les institutions et qui vont justement s'engouffrer dans cette brèche de l'identité, comment l'identité aide à mieux participer. Donc il va y avoir toute une série d'argumentaires de développer, oui mais l'identité, vous êtes stabilisé dans votre tête, donc ça vous permet de mettre les pieds ici, donc c'est finalement vous participez, je vous lirai des extraits d'entretien tout à l'heure. Et donc une troisième attitude qui est basée sur justement sur le rejet de cette espèce de synthèse instrumentale qui est proposée par les institutions et une logique qui dessine finalement une forme d'altérité qui est plus dérangeante parce que justement elle refuse ces espèces de monnayages locaux de l'identité, ces espèces de négociations finalement qui se jouent sur le plan local entre la ville, le contrat de ville et puis les associations communautaires. Alors, donc trois types de logiques associatives, et je disais pour chaque type, il y a différentes stratégies de soutien institutionnel. Alors, pour ce qui concerne les premières, celles qui restent sur la posture traditionnelle de la séparation entre privé, public, ethnique et citoyen de l'autre côté, pour aller vite. Alors, ici, on a des associations qui sont très différentes. Alors, d'un côté, on a des associations qui sont des associations de migrants et non pas de descendants, qui sont des associations issues d'immigration ancienne, hein, c'est-à-dire arrivées dans les années 60-70, hein, et aujourd'hui installées et enracinées en France. Donc ce sont des associations où justement les préoccupations ethniques, les préoccupations de fidélité religieuse, culturelle, occupent une place importante dans les activités de l'association. Mais ces activités justement de célébration un peu des traditions et des cultures ou alors de culte tout simplement sont perçues, je le disais à l'instant, comme vraiment une activité interne propre à la collectivité, donc sur laquelle les pouvoirs publics n'ont pas vocation à intervenir. Alors c'est le cas, je vais dire rapidement le profil des associations tout en ayant conscience du fait que ça commence à être un peu schématique. Donc il y a d'abord des associations religieuses. Il y a deux types d'associations, des associations religieuses qui peuvent être des associations musulmanes mais aussi des associations juives par exemple. C'est les deux types d'associations que j'ai observées dans l'enquête qui relèvent de ce type de logique associative. Et puis il y a des associations plutôt culturelles et socioculturelles au premier rang desquels on trouve les associations des immigrés européens, notamment espagnols, italiens et portugais. Et effectivement, je crois que ce sont les associations portugaises qui sont les plus caractéristiques de cette première logique d'action associative. Et ce sont des associations qui sont beaucoup organisées autour d'objectifs de rencontres et de convivialité communautaire. D'ailleurs, c'est souvent, alors ils ont souvent un local, un lieu dans la ville où ils se retrouvent pour toutes sortes de fêtes, de célébrations, de banquets, etc. Alors c'est souvent, d'ailleurs, c'est souvent en partant de ce lieu-là, de l'association, qui est le plus aisé de rendre compte de leurs activités, parce qu'effectivement, la fête, la convivialité occupe une place importante. Alors, c'est souvent un lieu qui est aménagé sous forme de bar, qui est très masculin, où les hommes se retrouvent pour boire un coup, mais qui est aussi familial, parce qu'elle est en week-end, ou au moment des fêtes, c'est aussi les familles qui vont venir pour célébrer des fêtes traditionnelles ou faire toutes sortes de festivités, tout simplement. Alors, il y a la vente des produits traditionnels, enfin, il y a toutes sortes comme ça d'activités qui accompagne un peu ces moments de loisirs et de festivités. Et souvent, ce qu'on observe dans les associations portugaises, c'est deux activités très typiques, c'est le foot et le folklore. Alors, ces associations-là sont souvent gestionnaires soit d'une équipe de foot, soit d'ensembles folkloriques. Bon, c'est vrai que c'est un peu caricatural, mais c'est ce qui a été beaucoup observé dans l'enquête, effectivement, surtout à Vitry. À Vitry, j'ai rencontré 5 associations portugaises, dont 4 avaient des équipes de foot. Donc sur 5 assos, 4 avaient des équipes de foot. À Gare, sur 2 assos portugaises, une avait des équipes de foot. Et bon, il y avait X aussi, ensemble folklorique. Et donc là aussi, le foot et le folklore, ça crée tout un réseau d'activités, puisqu'après, ça sera des festivals, des tournois qui sont organisés les week-ends dans toute l'Europe, où des Portugais installés en France, en Allemagne, ailleurs, vont se retrouver, par exemple, dans le cadre d'un tournoi de foot ou dans le cadre d'un festival folklorique. Voilà, ils vont partir au Portugal, etc. Ça crée tout un réseau d'échanges et d'activités communautaires. Voilà, autour desquels les familles se réunissent. Enfin, c'est... Donc voilà, en fait, pour aller vite, je crois qu'on peut dire que dans ce sens, l'ethnicité revêt essentiellement un sens de loisir et de divertissement. Vous voyez, c'est le foot, la fête, la culture, etc. Et elle marque une pratique qui est essentiellement privée pour les adhérents associatifs qui viennent en famille se détendre le temps d'un week-end, une soirée. Mais aussi pour la collectivité qui s'aménage comme ça des espaces privilégiés un peu d'entre-soi et de confort en quelque sorte, et qui privilégie ce confort de l'entre-soi à l'engagement public. Vous voyez, c'est des gens qui ne cherchent pas à mener des actions, à faire du développement local, à être dans le partenariat local, à lutter contre l'exclusion, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc de manière assez logique, c'est le financement privé qui est prépondérant pour ces associations-là, avec notamment, alors il y a toute l'industrie des soirées dansantes, des bals dansants qui rapportent beaucoup d'argent, c'est la source principale de financement, mais aussi le sponsoring privé. Hein, les entreprises, les banques de la communauté, entre guillemets, sont mises à contribution, surtout au moment des tournois de foot, avec des publicités sur les maillots des joueurs, etc. Donc sponsoring privé, des financements qui viennent des pays d'origine, puisque avec la construction européenne, l'Espagne et le Portugal ont relancé leur politique en faveur de leurs ressortissants expatriés. Donc toutes ces associations, notamment portugaises et espagnoles, se retrouvent dans des fédérations d'associations qui sont financées par les pays d'origine, et puis aussi des financements qui viennent quand même de la ville dans laquelle ces associations sont installées. Parce que si les associations portugaises sont snobées par le développement social et les professionnels de la politique de la ville, elles sont très appréciées par les hommes politiques et les femmes politiques, et d'autant plus qu'ils sont électeurs et éligibles depuis quelques années, grâce notamment à la construction européenne. Donc c'est des gens qui sont complètement installés dans les services municipaux, qui font jouer à fond les relations politiques, alors ils sont dans les conseils d'administration, et de fait ils captent quand même une part importante justement de l'aide traditionnelle qui est mise en place par les mairies. Hein, c'est une aide logistique, bon, c'est surtout une aide logistique, mais ils s'en servent pas mal. Voilà, ils font partie des gens qui captent au mieux justement ce qui est proposé par les circuits traditionnels de la mairie, mais ils sont snobés un peu par les contrats de ville. Bon, là je ne vais pas présenter le deuxième type d'association qui relève de cette logique-là de la dissociation, ça commence à être un peu compliqué je crois. Donc là il s'agit d'associations qui sont le fait essentiellement de descendants de migrants, souvent maghrébins. Ah, c'est les associations des jeunes de quartier. Bon, ça, c'est une figure que tout le monde connaît peut-être un peu, qui est pas mal médiatisée, publicisée. Donc là, comme je vois, j'ai pas le temps, j'ai pas m'arrêter là-dessus. Mais c'est pareil, c'est des gens qui, là, c'est un autre type d'attitude, puisque c'est des gens qui disent « Oui, c'est vrai, nous, on est, nos parents sont marocains, algériens, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas l'étiquette ethnique. On n'est pas là pour défendre les intérêts d'une communauté. On est là, au contraire, pour s'engager pour le quartier, pour faire du soutien scolaire, pour faire de la médiation, pour faire de l'action sociale. » Donc, qu'on soit en lien privilégié avec telle ou telle collectivité particulière, c'est vrai, mais voilà, c'est pas une appartenance qui est revendiquée dans le projet associatif. Le projet associatif est vraiment ciblé sur le local, le quartier, l'image du quartier, l'action en faveur des habitants du quartier, etc. Donc c'est vraiment, c'est la même logique, je disais, puisque c'est encore une fois, c'est la dissociation. Bon, on a peut-être une origine quelconque, mais c'est pas ça qui compte. Nous, on s'engage vraiment, c'est l'engagement, l'action publique au service de la collectivité. Et bon, simplement, donc ça, je ne le présenterai pas. Si vous souhaitez, on peut y revenir dans la discussion. Simplement, je conclurai sur cette première logique en disant que, voilà, on voit quand même que cette solution traditionnelle du privé-public, elle montre quand même pas mal de limites. Premièrement, parce que dans le cadre des associations communautaires, là j'ai pris l'exemple des associations portugaises qui s'occupent des affaires internes de leur collectivité, on voit que sous l'effet justement des financements auxquels permet d'accéder le volontariat local, ils sont tentés de faire glisser justement leurs activités, justement de ce spectre de la rencontre, de la convivialité vers l'action au service du quartier. Et j'ai pu voir des associations, notamment de migrants portugais, qui effectivement au début s'étaient organisées pour l'équipe de foot, bien sûr, il y a toujours l'équipe de foot, se rencontrer, prendre un pot, etc. Et puis qui petit à petit avaient fait évoluer un petit peu leur présentation, leur argumentation, pour se mettre au diapason de l'argument des contrats de ville et dire mais voilà, nous aussi on apporte aux habitants du quartier, c'est pas simplement pour prendre un pot, c'est aussi un service rendu aux habitants. Donc, se mettre au diapason et pouvoir postuler au financement de ces politiques-là sociales de proximité. Alors, deuxième effet pervers, qui est peut-être plus gênant, me semble-t-il, c'est celui qui concerne les associations de descendants d'immigrés, notamment maghrébins. Bon, c'est les associations des jeunes beurs, hein, ce que... voilà. Et alors, ce qu'on observe en ce qui les concerne, c'est une tendance inverse à l'ethnicisation du projet associatif. Donc ils ont beau se dire laïcs, républicains, etc., on y voit tout le temps qu'un groupe de petits Marocains, vous voyez, c'est bon, ils ont le discours le plus républicain, ils sont vraiment dans le... Et alors ils se retrouvent sans cesse renvoyés à leurs origines, oui, mais c'est des Marocains, c'est leur méthode d'apprentissage en soutien scolaire, c'est à la traditionnelle, les enfants se prennent des coups... Bon, et là, il y a un rapport très très ambigu par rapport à cette appartenance. Rapport ambigu de la part des institutions. Ils savent pas trop. Alors, c'est un prétexte à suspicion. Oui, mais attention, ils se disent laïcs et républicains, mais en fait, c'est un groupe de petits Marocains. En fait, c'est une façade, c'est une voie officielle, et derrière, c'est la communauté, quoi. Donc ça, c'est effectivement, d'abord, c'est prétexte à suspicion. Mais ensuite, assez rapidement, on en arrive à des arguments plus positifs. Oui, mais ils sont proches des populations, etc., etc. Et rapport ambigu aussi chez les associatifs, les membres de l'association eux-mêmes, qui un peu jouent sur les deux registres, si j'ai envie de dire. Si je peux dire. Voilà. Bon, là aussi, je vais arrêter pour passer au deuxième type de logique de mobilisation associative qui m'a personnellement le plus intéressé, c'est celui qui joue sur la synthèse, qui essaye de jouer sur la synthèse, c'est-à-dire l'ethnique au service de l'intégration. Comment faire de l'ethnique en restant dans le truc de l'intégration? Alors, quelles sont les associations qui se retrouvent dans ce cas de figure? Alors, tout de suite dire qu'en fait, elles ont des profils très très divers, et qu'il est difficile de les caractériser. Alors, j'ai essayé quand même de dégager quelques caractéristiques. Alors, c'est des migrants qui sont issus, ce sont des migrants d'abord, ce ne sont pas des descendants, ce sont seulement des migrants qui sont issues de migrations plus récentes, alors africaines, maghrébines, asiatiques. Et ce sont souvent des gens qui sont issus de migrations qui, aux yeux de l'opinion publique, sont justement des personnes qui sont susceptibles d'être concernées par tous les problèmes sociaux, chômage, exclusion, etc. Alors, ce sont des associations qui sont de création relativement récente, qui sont en quête de développement, et elles souhaitent se développer, et du coup, elles souhaitent faire appel au financement public. Et alors, ce qui frappe enfin, c'est vraiment la diversité, leur diversité, tant du point de vue des origines nationales que de l'histoire de leur création, de la personnalité des leaders. C'est vraiment un patchwork hein, qui peut être on peut caractériser par ces trois éléments, migration récente, migrants et non-descendants, etc. Alors, toutes ces associations-là ont un projet ethnique qui est très clairement identifié. Leurs appellations sont explicites. Elles s'appellent, par exemple, Garchtamoul-OFR, Amicale des Tunisiens, Amicale des Travailleurs Turcs, Association pour la Promotion de l'Outre-mer, Association de Parents Africains, Association pour la Solidarité Franco-Africaine, etc., etc. Et donc, effectivement, le travail identitaire, selon le terme utilisé par la personne que je citais à l'instant, occupe une place importante dans leurs activités, à travers notamment l'enseignement religieux. Alors, il faut dire, toutes ces associations-là font de l'enseignement religieux, même si elles sont cataloguées par les institutions comme étant plutôt socioculturelles. Donc, l'enseignement religieux, l'enseignement des langues maternelles, la célébration de toutes sortes de fêtes traditionnelles, etc., etc. Mais en plus de ces dimensions ethniques, ces associations-là nourrissent l'ambition de mener une action sociale au bénéfice de leurs compatriotes. Et cette ambition, cette préoccupation sociale n'est pas tout à fait nouvelle, puisqu'on l'avait déjà avec les associations qui étaient plus proches du premier type de logique associative que j'ai décrite. Par exemple, une association portugaise qui avait embauché une assistante sociale pour aider ses adhérents à préparer leur dossier de retraite, ou encore l'Amicale des Travailleurs Turcs, justement, qui bénéficiait également d'un assistant social qui mettait ses services au bénéfice des migrants turcs, etc., etc. Donc cette dimension sociale n'est pas tout à fait originale. Mais là, l'élément nouveau que je crois trouver dans le cadre de ces associations-là, c'est qu'on sort du registre qui est celui de l'entraide et de la solidarité communautaire, et on passe à l'ambition vraiment de mener une action publique d'intégration à côté des pouvoirs publics, vous voyez, à côté de l'État, et vraiment de suppléer les interventions des pouvoirs publics dans la lutte contre des problèmes sociaux globaux. Vous voyez, on n'est plus dans on va prendre une assistante sociale pour s'entraider. C'est vraiment on va aider l'État et les pouvoirs publics. Et donc là, j'ai une citation par exemple du président d'une association pakistanaise. Bon, les Pakistanais, c'était des gens qui étaient arrivés il n'y a pas très longtemps. Ils sont moins acculturés à l'idéologie ou rhétorique républicaine. Donc, ils disent les choses de manière un peu caricaturale, mais bon. C'est toujours intéressant à entendre, je crois. Et donc, par exemple, ce président-là me dit, notre association, on est là pour montrer le droit chemin, etc., etc. Il nous dit, les associations de notre communauté aux États-Unis, en Angleterre, ont déjà fait cette expérience. Et certaines parmi elles étaient même recommandées par les pouvoirs publics. Leur savoir-faire, leur méthodologie a réussi là où même la police était incapable de faire face. Et quand ils ont vu que leur expérience était profitable, on les a encouragés à continuer à développer leurs activités. Faites, on vous laisse les quartiers. Donc ce n'est pas du blabla, c'est vraiment quelque chose de concret qu'on veut faire. Vous voyez, là c'est vraiment, c'est pas simplement une assistante sociale, c'est vraiment, ils veulent aider l'État à prendre en charge la question du chômage, de l'exclusion, etc., etc. Bon, alors, à la différence des associations de jeunes que je mentionnais tout à l'heure, qui ont complètement repoussé et rejeté l'étiquette ethnique, ces associations-là restent quand même très attachées à leur projet ethnique, qui reste pour leurs responsables vraiment un élément porteur de sens, un élément de mobilisation et de fédération important. Donc ils ne peuvent pas complètement rejeter cet aspect-là, donc ils sont dans l'obligation justement de trouver la synthèse, comment combiner justement ethnicité, différence culturelle, appartenance particulière et lutte contre l'exclusion. Et alors bon, il faut tout de suite dire, ce qui est aussi un peu la perche qui est tendue, si je puis dire, par l'institution. Et alors, on peut tout de suite dire que cette synthèse entre ethnicité et action sociale, elle se fait plus aisément dans les discours et dans les représentations que dans les pratiques. et que dans les discours et dans les représentations, elle se fait essentiellement autour de quelques arguments. Alors il y a d'abord l'argument que je disais tout à l'heure, celui de l'individu au carrefour de deux cultures, entre deux chaises, sans repère, c'est l'individu qui est issu de l'immigration, donc sans repère, entre deux chaises, qu'il s'agit de stabiliser dans sa tête, pour qu'il puisse justement pleinement participer à la société française. Et là, j'ai des extraits d'entretiens vraiment magnifiques. Bon, je ne sais pas si je peux les lire, je n'ai pas tout à fait chronométré le temps. Par exemple, ça c'est le président de l'Amicale des Tunisiens de Garges qui parle. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Voilà. Il ne faut pas que les jeunes dérapent dans la délinquance. Les protéger, c'est notre but principal. Les attacher à leurs origines, à leurs traditions, à leur culture. Parce qu'ils sont peut-être français, mais ils s'appellent Mohamed. Et dans la tête, c'est pas ça. Quand ils rentrent au pays, ils ne connaissent pas la langue, n'ont pas d'amis, leurs amis sont en France. Comment dire ? Il ne sait pas où il est perdu. Donc, Amicale de Tunisiens de Garges, qui est engagé dans des activités multiples, culturelles, sociales, sportives, galas, sorties familiales, soutien scolaire, mais aussi cours d'arabe, cours religieux, et puis d'autres activités qui est pour partie financée par la ville de Garges. Donc une vision similaire qui est dépeinte par le président de l'association pour la promotion de l'outre-mer, qui est une section locale d'une association nationale, et qui par exemple, qui organise notamment des manifestations culturelles et des débats, et qui était par exemple à l'origine d'une exposition en mairie de Garges sur les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Donc il nous dit, donc promotion de l'outre-mer, il parle surtout des populations venues de l'outre-mer. Les parents sont venus en France avec l'idée de retourner à la retraite ou à la mutation. Leur tête se trouve là-bas, et le corps ici. Donc ça fait un déséquilibre. Ce déséquilibre empêche les parents inconsciemment de mener leur vie ici en participant pleinement à la vie de la cité, à la vie de l'immeuble, à l'école, etc. Donc le but de l'association, psychologiquement, à travers des débats, des conférences, des manifestations, c'est déployer des stratégies pour débloquer la communication, pour modifier, améliorer, stabiliser les comportements, permettre aux gens d'outre-mer d'être bien, d'assumer, de mettre la tête ici et après y participer. Je n'ai pas le temps d'aller jusqu'au bout. Alors il y a ça, il y a aussi l'argument de la prévention, qui est un thème historique de la politique de la ville, qui s'est beaucoup justement construite sur la prévention de la délinquance, à travers des actions comme VVV, Ville Vive Vacances par exemple. Donc on a fait de la prévention par le ski, par le dessin, par les vacances. Effectivement, du moment où on fait de la prévention par le dessin et par le ski, pourquoi pas ne pas en faire par l'ethnique ? Et donc effectivement, là aussi on voit que les cultures d'origine peuvent devenir à leur tour un facteur de paix sociale, et aussi un élément de contrôle des mœurs de la collectivité. Et là aussi, c'est une piste, c'est une brèche dans laquelle les responsables associatifs s'engouffrent très joyeusement. Et là, par exemple, je cite très rapidement les paroles d'un jeune qui est un responsable à l'Amicale des travailleurs turcs de Garges, qui me dit « L'autre jour, j'ai vu un petit Turc voler des cassettes dans ma voiture. Ses parents ne s'occupent pas assez de lui. Alors je l'ai pris par la main, je l'ai amené dans l'équipe de foot de l'association. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est la jeunesse. Je ne veux pas qu'elle traîne dans des milieux indésirables. » Vous voyez, donc c'est pareil, la prévention. Tant qu'ils sont dans l'association, au moins, ils ne vont pas casser, ils ne vont pas voler. Tant qu'ils font des cours d'arabe ou de soutien scolaire, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est l'argument occupationnel. Alors, il y a d'autres pistes plus innovantes, si je puis dire, pour une réappropriation institutionnelle de ces appartenances particulières avec le thème de la mémoire ou encore de la démocratie culturelle. Mais quel que soit l'argument avancé, bon, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'en fait, cette synthèse, elle se fait uniquement au niveau de du discours. Hein, et se fait beaucoup plus aisément, c'est une stratégie en quelque sorte rhétorique et discursive. La synthèse se fait dans les représentations, mais la synthèse ne se fait pas dans les pratiques. Et qu'en fait, dans les pratiques, en dépit de cette dialectique qui est recherchée entre identité et vivre ensemble, ce qui l'emporte, c'est la solution traditionnelle, encore une fois, de la coupure, qui est ici administrativement recréée dans le projet administratif, dans le fonctionnement associatif, par le projet. Donc, selon l'expression consacrée employée par les institutionnels, c'est au titre 2. Donc, eux, ils peuvent faire des cours d'arabe, de l'enseignement religieux, etc. Mais nous, c'est au titre 2, soutien scolaire, sortie familiale, etc., qu'on les soutient. Vous voyez, en fait, c'est à nouveau, on est en train de séparer les choses, et c'est au titre 2, les activités sociales les plus traditionnelles, que ces associations sont finalement soutenues. Et tout se passe comme si cette synthèse et dialectique qui était recherchée était à nouveau, était en quelque sorte laissée aux membres de l'association, aux responsables de l'association, qui, il faut bien le dire, s'y emploient de bonne grâce. En fait, la synthèse, elle ne se fait pas du côté de l'institution, mais elle se fait un petit peu du côté de l'association, puisque les responsables, notamment, vont s'efforcer de relier, de mettre en liaison tout ce qui est justement séparé sur le plan administratif. Et bon, là, on peut avoir des exemples de, comme ça, de reliaison. Alors, bon, tout d'abord, c'est, par exemple, on se rend compte que ce qui est l'aide logistique ou financière qui est consentie au titre de activité sociale peut être aussi utilisée par les associations pour la gestion des affaires internes, entre guillemets, de leur collectivité. Par exemple, une salle qui est donnée, qui est mise en place pour des cours de soutien scolaire peut servir pour un enseignement religieux. Et par exemple, la personne nous dit, bon, la religion, en principe, la salle n'est pas faite pour ça, mais bon, de temps en temps, ça arrive. Mais en fait, la relation entre les deux va au-delà de ces espèces d'utilisation détournée, qui sont, je crois, avant tout le signe du manque de formalisme de ces associations, qui sont des associations de bénévoles. Et en fait, là où c'est plus intéressant, c'est quand les responsables associatifs se servent des activités qui sont mises en place avec l'aide des pouvoirs publics en France, pour en faire une sorte de service rendu aux membres de la commune, de la collectivité, et donc un moyen de fidélisation pour des activités moins populaires et plus contraignantes, comme justement les cours religieux ou les cours d'arabe. Et là, je reprends l'exemple de l'association des Tunisiens, où par exemple, il y avait un séjour qui avait été financé par la ville de Garges et par le gouvernement des pays d'origine en Tunisie. Et pour ce séjour en Tunisie, le président avait favorisé la candidature des jeunes qui étaient inscrits au cours d'arabe. Vous voyez, c'est utilisé comme un moyen de fidélisation des adhérents et comme un moyen de recrutement pour des activités justement qui sont contraignantes et qui sont moins populaires. Bon, tout ça pour dire, parce que là je pense que vraiment il faut conclure, tout ça pour dire que finalement, bon, ce passage en force qui permet d'allier fidélité aux origines et soutien public, finalement, n'est pas évident à faire. Et très peu sont les associations qui y parviennent et ne bénéficient pas de financements très importants. Et pour reprendre l'expression d'une des chefs de projet interrogés, elles font 2-3 projets puis arrêtent. Leur place dans l'action publique est aujourd'hui périphérique, davantage symbolique que réelle. Vous voyez, donc, il y a des choses, il y a des balbutiements, des choses qui se passent, mais on se rend compte que c'est des choses quand même qui restent un peu marginales. Encore que, peut-être que là aussi, il faut renouveler les données, il faut élargir à d'autres villes. Je n'ai travaillé que sur 2 villes, donc ce n'est pas super. Bon, je n'aurai pas le temps de présenter le troisième type de mobilisation associative. Bon, je dirais simplement que c'est des gens justement qui rejettent cette espèce de monnayage, hein, en disant, voilà, c'est des associations qui sont à très forte connotation religieuse. Alors, les associations que j'ai observées, c'était des associations musulmanes. Mais bon, il ne s'agit pas de dire que c'est des phénomènes qui sont propres à l'islam. Mais, en l'occurrence, le peu d'associations de ce type-là que j'ai observées dans l'enquête étaient des associations musulmanes. Alors, il y avait des associations qui étaient des associations de jeunes descendants de l'immigration maghrébine, notamment algérienne. Et puis, il y avait des associations de migrants, notamment du sud-est asiatique, qui étaient justement l'association pakistanaise dont je parlais tout à l'heure. Alors, c'est des gens, justement, qui sont dans des parcours assez difficiles, dans des relations assez difficiles avec les mairies, avec les contrats de ville, qui sont rejetés de partout, qui ne sont pas financés, bon, et qui sont, justement, dans une posture un peu de conflit et de tension. Et justement, là, on voit une des limites de cette espèce de gestion sociale de l'ethnicité par la participation. Parce que bon, ça va quand c'est gentil, mais bon, quand vraiment il y a des enjeux plus forts de différence, là, ça, la participation elle trouve ses limites. Bon, je conclurai en 2-3 minutes en disant que ce qu'on voit émerger finalement de ces transactions entre institutions et actions et acteurs dits communautaires est finalement une forme de reconnaissance paradoxale, où la spécificité d'autrui n'est prise en compte que dans la mesure où elle s'inscrit dans un espace qui est prédéfini et qui est en l'occurrence tracé par ce que j'ai appelé l'ethnique au service de l'intégration. Bon, je ne sais pas si cette expression est très heureuse. Donc finalement, c'est la notion même de reconnaissance que l'enquête nous invite à questionner. Alors, traditionnellement, cette idée de reconnaissance faisait référence, semble-t-il, à la détention d'une qualité extraordinaire. Et c'est en ce sens qu'on parle souvent de reconnaissance en France, au sujet d'actions de promotion de carrières individuelles exemplaires, comme par exemple celle de jeunes artistes ou sportifs issus des quartiers, entre guillemets, qui s'en sortent par le rap ou par le foot. Donc ça, c'est une première acceptation. Dans une deuxième acceptation qui serait plus contemporaine et peut-être davantage imprégnée par la logique démocratique, la notion de reconnaissance semble désigner non pas la prise en compte de ses qualités extraordinaires, mais au contraire, le respect de ce qui serait des aspirations individuelles à une fidélité à soi, à une authenticité. Vous voyez, c'est être fidèle à soi-même, être authentique, etc. Alors, ces espèces de bricolages que j'ai décrits, qui ont été observés dans l'enquête, effectivement, accusent l'idéal avec cette idée de reconnaissance comme prise en compte de la fidélité à soi, de l'idéal d'authenticité, etc. Parce qu'on voit au contraire qu'on est dans une logique d'instrumentation, d'instrumentalisation essentiellement. Mais on peut se demander aussi dans quelle mesure cet idéal de reconnaissance n'est qu'utopique. Et parce que, me semble-t-il, que effectivement cette dimension mutuelle, dialogique de reconnaissance implique ce qu'on pourrait appeler une réciprocité des perspectives et un langage commun, qui fait que, en fait, ne peut être reconnu que ce qui s'inscrit dans un cadre partagé de représentation et d'analyse et de compréhension. Et donc, en quelque sorte, dans un effort de dépassement justement de la spécificité, de l'unicité, par la recherche de catégories communes et dans cette perspective, toute sorte de reconnaissance est un tant soit peu paradoxale. Voyez. Mais c'est vrai que, par les moyens que se donnent en France les pouvoirs publics pour faire la reconnaissance, à savoir ceux de la participation, ce paradoxe est encore plus amplifié. Parce que, effectivement, une des limites de la participation, comme l'ont remarqué un certain nombre d'auteurs, c'est que, effectivement, la participation comme adjuvant de la citoyenneté démocratique, c'est une idée intéressante, mais elle occulte un problème important, qui est celui de savoir comment les gens vont se mobiliser sur des initiatives vraiment citoyennes. Est-ce que toute mobilisation, est-ce que toute action collective est bonne en soi ? Vous voyez, il y a cette idée-là, mobilisez-vous, prenez-vous en charge, mais est-ce qu'on est sûr que les gens vont se mobiliser sur des objectifs légitimes ? Et il peut y avoir des mobilisations citoyennes, pas citoyennes, mais des mobilisations collectives, qui soient même complètement contraires aux idéaux collectifs d'égalité et de respect d'autrui. Vous voyez, on peut avoir un collectif de résidents qui se mobilise pour des causes discriminatoires, par exemple l'expulsion d'une famille, qui gêne le voisinage, etc. Donc, la participation, c'est une bonne chose, mais comment se prémunir, comment garantir qu'elle soit réellement citoyenne ? Donc, la nécessité, justement, d'un arbitrage public qui s'assure que parmi les mouvements de la société civile, seulement ceux qui épousent les causes collectives et les valeurs collectives soient finalement soutenus. Et les théories de la participation, comme par exemple celle de Michael Walzer, admettent effectivement explicitement la nécessité d'un tel arbitrage. Donc il faut qu'il y ait un cadre, un arbitrage qui permette de distinguer entre qui soutenir et qui ne pas soutenir. Alors, au regard des résultats de l'enquête, effectivement, on voit que ce cadre, il est bien présent. Hein, le cadre est là, il n'y a pas de souci. Mais ce cadre reste très fortement attaché à la notion d'intégration, comprise comme surtout une dynamique de convergence, de ressemblance. Vous voyez, donc finalement, le pluralisme culturel, bon, il est un peu passé à l'as. Donc première chose, le cadre normatif, il est très attaché à l'intégration. Et deuxième chose, ces processus d'arbitrage et de négociation au terme desquels certaines organisations sont soutenues et d'autres non, sont finalement conduits, c'est ce que montre l'enquête, à la discrétion des institutions. Hein ? Il y a vraiment une logique tutélaire, il y a vraiment un sentiment de contingence et d'arbitraire dans les arrangements locaux, qui fait que ces arbitrages, ces négociations, même s'ils pourraient être légitimes, sont finalement conduits, je le disais à l'instant, de manière arbitraire, de manière complètement tutélaire, qui fait que finalement elle s'écarte sensiblement, me semble-t-il, justement des objectifs de, à la fois des principes de respect d'autrui, des objectifs de justice sociale et de reconnaissance. Et tout se passe comme si, je conclue par cette phrase, plutôt que de reconnaissance, c'est d'une irruption de l'ethnique et du particulier dans l'action publique dont il faille parler en France.